magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia.
Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18, nous lirons les versets 9 à 14. Faux prophètes au pluriel et vrais prophètes au singulier. Lorsque vous aurez pénétré dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous accordera, vous ne vous mettrez pas à imiter les pratiques abominables de ses habitants actuels. Qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts, qui interroge les esprits des morts. Le Seigneur, votre Dieu, a en horreur ceux qui agissent ainsi, et c'est pourquoi il va déposséder les habitants de ce pays lorsque vous arriverez. Pour vous, conduisez-vous de manière irréprochable à l'égard du Seigneur votre Dieu. Le peuple que vous allez déposséder, les peuples que vous allez déposséder, écoutent les conseils de ceux qui pratiquent la magie ou la divination. Le Seigneur votre Dieu vous interdit d'agir ainsi. Dans le livre des Actes, au chapitre 13, nous lisons les versets 1 à 12. Or, il y avait à Antioche, dans l'assemblée qui était là, des prophètes et des docteurs, et Barnabas et Siméon, appelés Niger, et Lucius le Cyrénéen, et Manaëm, qui avait été nourri avec Hérode, le tétrarque et Saül. Et comme ils servaient le Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, « Mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, ayant jeûné et prié, et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller. Eux donc, ayant été envoyés par l'Esprit Saint, descendirent à Séleucie, et de là, ils firent voile pour Chypre. Et quand ils furent à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs, et ils avaient aussi Jean pour serviteur. Et, ayant traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain homme, un magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Serge Paul, homme intelligent. Celui-ci, ayant fait appeler Barnabas et Saül, demanda à entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ainsi que son nom s'interprète, le résistait, cherchant à détourner le proconsul de la foi. Et Saül, qui est aussi appelé Paul, étant rempli de l'Esprit Saint, fixant ses yeux sur lui, dit « Ô homme plein de toute fraude et de toute méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir tes voies droites ?» Ne cesserais-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur ? Et maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle sans voir le soleil pour un temps. Et à l'instant, une obscurité et des ténèbres tombèrent sur lui. Et se tournant de tous côtés, il cherchait quelqu'un qui le conduisait par la main. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant saisi par la doctrine du Seigneur.
Johann a parlé prophétiquement tout à l'heure en parlant de l'Église évangélique protestante. Ce sera le thème de ce matin. Frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue de la part du Seigneur à chacun et chacune. Je suis heureux de vivre ce culte ce matin avec nos deux communautés réunies pour le partage de la parole et le partage du pain. J'inaugure ce matin une série de 8 prédications, 8 cultes de l'été sur le thème des voyages de Paul dans le livre des apôtres, des actes des apôtres. Très régulièrement dans nos églises, le thème de l'évangélisation et de la mission revient. Et cela est particulièrement vrai dans les moments où elles connaissent des difficultés de recrutement, ou lorsque elles paraissent se vider, et vous avez peut-être lu la presse à propos de l'Église évangélique protestante. Au début de son histoire, comment l'Église s'est-elle développée? En relisant l'histoire, nous trouverons nos racines et donc des pistes pour l'avenir de nos églises. L'Évangile nous montre que la mission est au cœur même de l'Église. Et l'Église naît au moment où Jésus envoie les 12 pour aller évangéliser, puis les autres après. On pourrait dire que pour Luc, ce passage d'acte 13, dont il est question ce matin, est le point de départ de l'Église universelle, c'est-à-dire qui sort de Jérusalem. Pour les Juifs, le nombril du monde, c'est Jérusalem. Pour l'Empire, c'est Rome. Le monde de Luc a 2 centres. La mission vers les non-Juifs part de Jérusalem et va en direction de Rome. Tout le livre des Actes cherche à nous faire revivre l'histoire des premières communautés chrétiennes. L'expansion progressive de la mission depuis Jérusalem, centre du judaïsme, jusqu'à Rome, cœur du monde païen. Luc invite le lecteur des Actes à être acteur, à son tour, du deuxième temps, le temps des témoins. Et nous y sommes toujours. Le premier tome, l'évangile de Luc, parle de l'origine et des actes de Jésus au sein d'Israël. Le second, les actes des apôtres, parle du prolongement des actes de Jésus par la communauté chrétienne et ses envoyés dans le milieu juif. Milieu juif qui se ferme, puis auprès des non-juifs. Les figures majeures dont Luc parle sont tour à tour Pierre, Étienne, Philippe, puis Paul, et ses compagnons de voyage Barnabas, Silas, Timothée. En retraçant l'histoire de l'Église primitive, Luc veut aussi faire comprendre au lecteur ce que signifient les faits rapportés et comment le christianisme a évolué sous la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a un rôle clé. Pour Paul et Barnabé, ce premier voyage missionnaire durera environ 4 ans. Les Actes des Apôtres racontent cette première mission des deux voyageurs au chapitre 13 et 14. Et c'est Sylvain Dupertuis qui vous parlera dimanche prochain au CEPOM de la deuxième partie de ce voyage. Pendant le voyage, Paul nous dévoile ses méthodes, son message et son caractère, mais il demeure le missionnaire envoyé par la communauté d'Antioche, en Syrie. Il rendra compte à son retour à cette communauté d'Antioche en Syrie. C'est une occasion de rappeler ici l'importance de la prière pour la Syrie, qui est, nous ne le savons pas toujours, à l'origine de notre Église ici. Paul suit ici un plan assez habituel. Il l'adoptera tout au long de ses voyages missionnaires. Commencer par la synagogue, dans laquelle, en qualité de rabbi, on l'invitait volontiers à prendre la parole. Et ces juifs de la diaspora, en fait, vont se révéler un appui important comme agents principaux de l'expansion et du développement du christianisme dans le monde. Remarquons aussi la richesse de l'église locale d'Antioche. On lit dans ce texte biblique qu'elle abrite plusieurs prophètes et docteurs en son sein. Alors là, il y a peut-être l'énumération d'un principe selon lequel, lorsque trop de personnes qualifiées et compétentes sont dans un même lieu, il est bon que plusieurs d'entre elles le quittent pour être source de bénédiction ailleurs. On peut peut-être comprendre ça, de ce passage et réfléchir là-dessus. Le but, c'est pas tellement qu'on soit une belle assemblée et bien ensemble, même si ça nous fait du bien à tous. Le but, c'est que tout le monde ait entendu l'Évangile. Actes 13, 1 à 12, ici commence une nouvelle division du livre des Actes. Les 12 premiers chapitres, c'est le cycle de Pierre et l'évangélisation de Jérusalem. Et puis les 12, donc du chapitre 13 au 28, c'est le cycle de Paul. L'assemblée d'Antioche en Syrie donc devient le point de départ, la base, de l'œuvre qui va s'accomplir parmi les nations. Barnabas et Saul sont appelés, mis à part, et s'en vont, accompagnés par les prières de l'assemblée. Leur première étape est l'île de Chypre, dont Barnabas était originaire. Ils arrivent à Paphos, un port sur l'île de Chypre. Les apôtres sont invités par le consul Sergius Paulus, le plus haut fonctionnaire romain de l'île. Cet homme intelligent connaissait le Dieu des Juifs et désirait entendre sa parole. Mais il était conseillé par un personnage inquiétant, Élymas, magicien, juif, exerçant donc une activité abominable aux yeux de Dieu, qui profitait des besoins spirituels de Sergius Paulus pour exercer sur lui une influence néfaste. Ce qui est intéressant quand même avec cet épisode, c'est de noter que c'est par un ennemi de la parole que la parole va être diffusée. Dieu a pris les choses folles du monde pour confondre les sages. On peut élaborer toutes les stratégies d'évangélisation, on ne penserait jamais à celle-là. Pourtant, le Saint-Esprit a pris celle-là. Ce magicien, il a sans doute empêcher le Sergius Paulus de venir au Christ. Mais en l'empêchant, il a suscité son intérêt. Et finalement, c'est le contraire qui va se passer. L'opposition de ce magicien produit précisément ce qu'il cherchait à empêcher. Elle permet à Paul, ainsi nommé pour la première fois, c'est là qu'on entend Paul pour la première fois, de donner, et non plus Saul, donc il passe du prénom Saul à un prénom latin. Elle permet donc à Paul de donner au proconsul, en châtiant le faux prophète, une preuve de la puissance du Seigneur. Il ne faut pas croire que c'est le geste magique, puissant de Paul qui rend aveugle. quelle importance. C'est la parole de Dieu, c'est le message, c'est l'autorité spirituelle que Dieu donne. Mais c'est vrai qu'on aimerait aussi vivre ces gestes dans nos églises et que c'est une source de réflexion. Élimas est un peu un type du peuple juif qui, à cause de sa résistance à l'Esprit de Dieu, a été rendu aveugle spirituellement pour un temps au profit des nations. Cette ouverture de la porte de la foi aux païens, ce sera la marque distinctive de la mission de Paul et l'événement charnière de tout le récit des Actes. Notons dans ce passage l'attitude de la communauté. On a des choses à apprendre ou à confirmer. Et le rôle aussi de l'Esprit-Saint. Que fait la communauté? Elle célèbre le culte, prie et jeûne. À quoi sert le jeûne? Le jeûne appuie l'intercession. Que se passe-t-il alors? Le Saint-Esprit leur parle, verset 3. Le jeûne et la prière vont dans le sens de confirmer la justice, la justesse de l'appel entendu. Les décisions ne se prennent pas sur un coup de tête, sur un désir personnel. La vocation est vérifiée en Église. Les deux envoyés sont confirmés dans leur mise à disposition de l'œuvre de l'Esprit avec le signe de l'imposition des mains. Cet envoi implique que l'Église recevra un rapport de mission au retour des envoyés. Elle reste solidaire de ceux qu'elle commissionne. Luc redit encore que c'est l'Esprit Saint qui ordonne la mission. Il ne dit pas qu'il en définit le parcours. Ils partent littéralement expédiés par le Saint-Esprit. Et comme le disait Martin Luther, Dieu nous donne les noix, il ne nous les casse pas. Au verset 9, donc, Luc signale que dès ce moment, Saul prend l'initiative de la mission auprès des païens à l'occasion du contact avec ce proconsul. C'est à partir de ce moment-là qu'un nom latin lui est donné, celui de Paul, jusqu'à la fin de ses récits. Le début de la mission vers les païens vient d'un ordre du Saint-Esprit. Et la réponse de la communauté, le consentement à envoyer les mieux formés, est gage d'une mission qui a des chances d'ouvrir de nouvelles portes à l'Évangile. Notons que Luc, Barnabas et Paul ont une connaissance précise de la langue et de la culture à laquelle la prédication chrétienne s'adresse, ainsi que des questions d'organisation sociale, économique et politique, des connaissances sociologiques. C'est important de comprendre l'autre pour transmettre le message. Particulièrement dans la situation de nos églises aujourd'hui, ce n'est pas aux gens de venir à l'église, c'est à l'église d'aller vers les gens. L'enjeu de la mission est d'annoncer la parole de Dieu à des personnes en position de responsabilité et capables de réflexion. Car en les amenant à la foi, c'est tout leur entourage qui sera confronté à la réalité et à la souveraineté du Seigneur. Des découvertes attestent que les membres de la famille de Sergius Paulus devinrent aussi chrétiens, sa fille et le fils de celle-ci, membre d'une éminente famille. Voilà que le premier voyage missionnaire démarre dans de bonnes conditions. Et la confrontation à de l'opposition ne prend pas les envoyés par surprise, mais aiguise leur discernement et les recentre sur la souveraineté du Seigneur. Ils ne rendent pas les plaques. Dans les Actes, les cycles d'opposition sont suivis d'expansion. Les difficultés débouchent régulièrement sur une amélioration des conditions de vie de l'Église et une meilleure diffusion de l'Évangile. Est-ce qu'on peut l'appliquer à titre personnel? Est-ce que nos difficultés nous rendent meilleurs, plus aguerris? Peut-être. Mais en tout cas, en Église, on a à retenir cela. Dans ces cycles, les difficultés viennent alternativement, c'est intéressant de le noter, de l'extérieur et de l'intérieur de l'Église. C'est pas nouveau. Quelle que soit l'origine de l'opposition, le résultat final est invariablement une Église plus forte, plus unie, plus conquérante. Ceci nous invite à voir dans nos crises d'Église actuelles des opportunités et non seulement des menaces. Qui évangélise ? La mission de l'évangélisation suppose des compétences, de l'excellence et du caractère. Mis au service de l'Esprit-Saint, la disponibilité à la mission est le fait de toute une communauté qui cultive sa communion avec le Seigneur. Ceux qui ont les meilleures capacités que la communauté consacre à cette tâche doivent être soutenus par sa prière et son attention. C'est un travail d'équipe. La communauté est responsable de ses envoyés, tant pour l'aller que pour le retour. Faut pas les oublier. Comment évangéliser ? Eh bien, susciter l'intérêt pour l'Évangile se fait par le dialogue, l'écoute, la confrontation de points de vue, mais surtout par les rencontres. Nous sommes appelés à oser des rencontres et des discussions. D'abord, avec ceux qui nous sont naturellement proches, sachant que c'est Dieu qui ouvre les portes pour toucher des personnes clés, par-delà notre propre cercle, et souvent à notre insu. Je me souviens, avant que je fasse la théologie et que je devienne pasteur, quand j'étais dans les affaires, l'été, je consacrais souvent du temps à de l'évangélisation avec des équipes, et notamment au jardin anglais. On était là, on avait une caravane avec des boissons, et puis on partageait l'Évangile à qui voulait bien l'entendre. Parmi les nombreux contacts que j'ai eus et témoignages que j'ai eus, je me rappelle de celui-là, un homme d'Afrique du Sud, qui était dans l'opposition au régime en place. Mais tout ça, je ne le savais pas quand je lui partageais l'Évangile. Et il m'a dit, à la fin de notre entretien, ce que vous me partagez me travaille, m'interpelle. Je suis dans l'opposition en Afrique du Sud, c'était un des leaders. Et jusqu'à présent, on a toujours utilisé la violence. Ce qu'il était en train de me dire, c'est ce que Dieu me disait. C'est que si tu t'occupes de faire ce que je te demande de faire, moi je m'occupe de la stratégie. Tu n'as pas à savoir à qui tu transmets, mais tu as à transmettre. Et qui sait à qui nous avons témoigné ? Nous sommes dans une ville, ici à Genève, où on a un nombre de passages, un brassage de population. Laissons-nous simplement véhiculer par l'Esprit de Dieu, ayons le courage d'établir des contacts et de transmettre. Le reste ne nous appartient pas. Mais Dieu peut faire beaucoup avec nos deux poissons et nos cinq pains. Qui envoyait à la rencontre de ces gens ? Le travail de l'évangélisation est un travail d'équipe, qui n'annule pas un leadership, mais le rend explicite. Ensuite, chacun assure ce qu'il sait et peut faire le mieux. Le livre des Actes a donc un but d'édification ou d'évangélisation. Il donne en même temps au lecteur une formation en vue du témoignage, en montrant comment les premiers chrétiens ont propagé leur foi lorsqu'ils étaient confrontés aux Juifs, à la magie, aux religions polythéistes primitives, à la philosophie grecque ou à la religion commercialisée. La méthode missionnaire de Paul, donnée en exemple, reste un modèle valable pour tous les temps. Il évangélisait les grands centres culturels et religieux et formait des collaborateurs qualifiés pour qu'ils diffusent l'Évangile dans les provinces environnantes. Ainsi, la mission au sein de l'Église est-elle la mission de tous et de toutes, et non pas la seule mission des disciples, missionnaires, prêtres, pasteurs ou autres spécialistes. C'est nous tous qui sommes envoyés, et c'est la communauté, pour annoncer la parole de Dieu, annoncer cet évangile de libération. Nous ne devons pas nous croire inaptes, moins aptes, les uns que les autres. Nous tous qui avons reçu cet évangile et qui avons été libérés par lui, nous sommes envoyés par le Christ dans le monde, à commencer par Mérin, pour témoigner de cet évangile par nos paroles, par nos actes, par notre manière de vivre. Nous avons à le faire simplement, en accueillant et en acceptant d'être accueillis comme les apôtres. Et nous avons à le faire tous ensemble et non pas chacun dans son coin. Souvenons-nous de la promesse faite par le Christ à ses disciples au moment où il les envoie en mission. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit. Alors vous serez mes témoins. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit que sera accomplie cette œuvre, déclare le Seigneur Tout-Puissant. Nous sommes tous envoyés par l'Esprit, au nom du Christ. Bon voyage. Amen.